Je veux dire qu'un juif ne peut pas penser l'expérience d'un chrétien, un juif ne peut pas penser non plus l'expérience d'un musulman. Enfin, je vais essayer de vous décrire ça un peu de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réception de satisfaction. J'emploie intentionnellement le mot de satisfaction, s'avère rassasié. Okay? De satisfaction de ce qui est reçu du Créateur, mais dans l'instantané. Et il y a une jouissance du monde, mais pas n'importe quelle jouissance, une jouissance reconnue comme étant un don du Créateur. Il n'y a pas de doute qu'il y a là une expérience religieuse authentique. Mais ce rire est au présent. Et nous allons voir immédiatement que le rire auquel est donné Gaspard, qui est le rire à l'avenir, au futur, implique le critère de la moralité. Alors que le rire au présent n'implique pas le critère de la moralité, et de nouveau, c'est là qu'apparaît la différence. Alors, donc notre question sur le deuxième problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire que Agar l'Égyptienne porte cela d'Abraham, du même Abraham, et que Sarah, l'Hébreu, porte autre chose. Et vous voyez que Abraham peut avoir deux mondes d'identité radicalement différents suivant la matrice qui sera la matrice d'engendrement du fils. D'un côté, c'est la société hébraïque, Sarah. De l'autre côté, c'est la société égyptienne, Agar. Ce même Abraham, avec la société égyptienne, donnera Ishmael, avec la société hébraïque, donnera Yitzhak. Mais voilà qu'entre-temps, la société hébraïque se croyait stérile, et elle a passé le relais à la société égyptienne. Ce n'est pas du tout les accords contemporains. Et vous voyez ce qui est arrivé. Lorsque le Zohar parle de ce problème, il en parle comme d'une catastrophe. Cette espèce d'imprudence, de l'initiative généreuse de Sarah et surtout de la complaisance plus que généreuse d'Abraham, parce qu'il a aussi aimé Agar l'Égyptienne. Vous vous rappelez qu'ensuite, après la mort de Sarah, il épouse Keturah qui est aussi Agar l'Égyptienne. Vous vous rappelez de ça. Et alors, il ne faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette différence de vie. Je vous cite, en schématisant beaucoup, un enseignement qui est donné dans la Gemara et qui nous montre ceci. Celui qui est capable de rire, et que cela, de rire pleinement, satisfaction vraiment, et avec cet indice religieux authentique, que je jouis de l'être que Dieu m'a donné, c'est de la piété. Et j'espère que vous présentez un peu de quelle nature est la piété musulmane. À ce niveau-là, elle est authentique. Mais celui qui est capable d'être satisfait de l'être, alors que le monde n'est encore que ce qu'il est, c'est le signe qu'il est un rachat et pas un saint, dans sa piété même. J'accuse un peu l'analyse pour que vous compreniez le contraire. Hein? Alors que le monde est encore ce qu'il est, rire au présent et rire à pleine bouche au présent, même à l'indice religieux d'être satisfait de ce que Dieu donne, Dieu n'est pas satisfait, moi je vais être satisfait. Et il fait comprendre le sentiment beaucoup plus profond d'authenticité de créature chez Sarah que chez Agar, si vous voulez, chez Ishmael que chez Israël. C'est très délicat à expliquer. Ça ne veut pas du tout dire que le comportement religieux de Ishmael dans l'instant n'est pas authentique, mais précisément parce qu'il est dans l'instant, il est inauthentique.
Il manque d'inspiration.
Comment ?
Il manque d'inspiration.
Je voudrais traduire cela en logique morale. Okay ? Bien sûr, il manque cette perspective de l'avenir qui fait le juif différent du musulman. Bon, mais c'est un autre niveau, c'est un autre problème. Je vais expliquer ça en termes de moralité. Ça veut dire que, alors que le monde est plein de méchanceté, être heureux et que ça du monde, c'est le signe que l'on est soi-même du côté des méchants. Bon, j'ai poussé les choses à la limite, pour vous dire autrement, en citant un autre enseignement de ce même contexte de la Gemara, qui nous dit ceci, là ça va un peu vers le versant chrétien. Celui qui est capable de dormir une semaine sans rêver est appelé rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourtant, en civilisation chrétienne, on parlera du sommeil du juste. En civilisation hébraïque, le juste ne peut pas dormir. Il a des cauchemars. Parce que est-ce qu'on peut dormir tant que le monde est effilé? Alors, vous voyez la surprise apparente, comment il faut changer de résidence. Okay? Alors, n'essayez pas de vous identifier personnellement. Si vous arrivez à dormir une semaine sans rêver, que Dieu vous bénisse, ce n'est pas un problème. Mais il faut comprendre l'idée qu'il y a là. Comment pouvoir ne pas avoir de scrupules dans le monde tel qu'il est encore? Alors vous voyez pourquoi Yitzhak ne peut pas rire auprès d'eux. Et en quoi il est vraiment le fils d'Abraham, c'est parce que son identité est tout entière la promesse de rire au futur. Je un peu banalisé, si vous voulez, mais c'est très exactement ça. Rira bien qui rira le dernier. Et ça, c'est dit pour Yitzhak. Oui, le juif, enfin l'hébreu, en tant que fils d'Yitzhak, va s'empêcher de rire jusqu'à ce que ça soit moralement possible. Alors que le rire d'Ishmaël se fiche éperdument de l'état de la moralité dans le monde. C'est bracha. Je reçois la bénédiction de la jouissance et j'en jouis. Et j'en jouis pieusement en reconnaissant que je la tiens du Créateur. Il y a là, si vous voulez, une religiosité très typée qui nous est très familière pour nous qui avons vécu en pays d'islam, qui est certainement pas du tout familière pour les juifs qui ont vécu en pays de chrétienté, mais qui n'est pas du tout la piété hébraïque. Elle est parallèle, elle peut être convergente dans certaines expériences, mais elle est radicalement différente parce qu'elle ne porte pas le même sentiment du monde. Bien que le point de départ soit très 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 proche. Être heureux de ce que l'on reçoit du Créateur, et en particulier à travers la nourriture. Le moment de satisfaction de la piété musulmane, c'est la fin du repas. J'ai pas envie de vous faire une monographie de la mendication musulmane aujourd'hui, mais vous voyez à peu près jusqu'où ça va. Bon. Et alors, je reviens donc à ce que dit la Gemara en citant un verset du psaume messianique. La Gemara l'enseigne de la manière suivante. C'est un enseignement de Rish Lakish, au nom de Rabbi Yochanan, et qui dit ceci. Assur le Adam, sheimales chok piv ba'olam hazeh. Il est interdit à l'homme de remplir sa bouche de rire dans ce monde. Dans ce monde-ci. C'est-à-dire tant que le monde est ce qu'il est. Chok piv ba'olam hazeh. Et elle cite un verset d'un psaume que vous connaissez très bien. Veshuv Hashem et Shivat Zion, Ha'inu Kechomim, Az Imale Sofim. Alors seulement notre bouche s'emplira de rire. C'est-à-dire au temps de la Géoula. C'est-à-dire tant que le monde est encore ce monde embryonnaire, et comme j'ai l'habitude de dire, il suffit de lire le monde pour savoir ce qui se passe dans le monde. Et est-ce qu'on peut rire après avoir lu le monde? C'est ça le problème. Et les musulmans rient. Nous allons encore avoir de l'uranium. Mais, vous voyez, l'humour de la vie. Ce rire d'Ishmaël exprime la satisfaction de la jouissance du monde présent. Mais ce n'est pas du tout le rire du libertin, forcément. Ce n'est pas le rire de l'homme de la distraction dans le sens du XVIIe siècle. C'est pas le rire du FKR, du apicorose. Non, c'est le rire de satisfaction très pieusement religieux de celui qui vit la satisfaction comme la recevant du Créateur. C'est très pieux comme rire. Mais c'est un rire qui, aux yeux de l'hébreu, et ici c'est l'hébreu au féminin, Sarah, est un rire immoral, bien que authentiquement pur. Je ne sais pas si je suis arrivé à vous expliquer cette chose-là. Metzachek, Yitzhak. Je voudrais finir la citation. Alors, la Gemara cite ceci. As imalet kofinu, pushonen orina. Matai, dit la Gemara, quand on aura le droit de rire pleinement. As yomru bagoim, il dit l'Hachem la asot imelet. Lorsqu'on dira chez les nations, Dieu fait de grandes choses avec eux. Vous voyez, c'est un psaume messianique. Okay? À un certain temps de l'histoire, on aura le droit de commencer à rire en juif. Okay? Vous avez remarqué dans toute l'histoire juive, le rire est difficile. Il y a beaucoup d'humour. C'est, si vous voulez, la soupape de dégagement du rire impossible. Mais c'est un rire réprimé. On ne peut pas rire vraiment tant que l'histoire est ce qu'elle est. Alors c'est très différent du rire plein au présent que Sarah diagnostique chez Ishmaël. Dans la suite de l'analyse, je vous demande de bien faire attention à ça. Nous faisons ici, avec le Midrash, de la typologie. C'est-à-dire, on parle de thèmes d'identité à l'échelle générale, à l'échelle collective. Il ne faut pas généraliser. Il est évident que ça ne disqualifie pas, a priori, tout descendant d'Ismaël. À l'échelle individuelle, toutes les réussites sont possibles. J'en ai parlé hier matin, au niveau de la rédemption d'Ismaël par l'islam, et qui touche à l'échelle individuelle, des hommes capables d'être des justes. Mais je parle d'une attitude d'identité assez générale. Et nous allons voir ce que les rabbins du Talmud, dans la Tosefta, vont dire de ce rire de Ishmaël. Mais voyez que le principe de différenciation d'identité du fils d'Abraham vient de la mère. C'était le même Abraham. Il enseigne, nous sommes créatures d'un créateur. S'il a Ishmaël, Ishmaël rit au présent. S'il a Yitzhak, Yitzhak rira dans l'avenir. La clause de différence, c'est la moralité. Et alors, d'où vient la différence? Pas d'Abraham, elle vient de Sarah et d'Abraham. Vous avez compris? Alors là, nous sommes devant le mystère de la maternité, selon l'enseignement de la Bible. Peut-être qu'il faudra consacrer un séminaire à cela, peut-être plus qu'un séminaire. C'est le fait que la gestation de l'identité messianique passe par la mère. Et c'est l'identité du père qui est à modifier. C'est elle qui est en jeu d'histoire. Mais la matrice de modification, c'est celle de la mère. Et c'est pourquoi on est juif par sa mère première. Je pense que c'est clair. Vous voyez la première illustration. Qu'est-ce qui fait Yitzhak différent de Ishmaël? C'est Sarah différente de Hagar. Oui.
Oui. Parce que dans la traduction du rabbinat, il y a vraiment marqué que Mivri a des railleries. C'est un
rire
réfléchi déjà.
Oui, vous avez raison. C'est un des midrashim qui a été utilisé par le traducteur. Un rire moqueur contre Israël.
Les railleries, c'est quand même très fort.
C'est très particularisé. Oui. C'est un des midrashim. Je vais vous les citer. Mais je vais d'abord parler de la capacité de rire en général. Là, c'est trop particularisé dans la traduction. Vous avez raison. C'est Metzachek. Et alors, le mot de trop en hébreu a plusieurs sens. Ça veut dire se moquer, ça veut dire s'amuser, se divertir, mais ça veut dire fondamentalement rire. Regardez dans ce verset des psaumes que la Gemara a cité, Az imale trop fini. Alors notre bouche s'emplira de rire. Et je pensais inévitablement à Bergson. Vous savez qu'il a écrit un traité du rire. Je me demandais en pensant tout haut si c'est pas par hasard, enfin, si c'est par hasard, Dafka. Que personne ne soit occupé du rire, personne n'était très occupé à essayer de dégager l'identité juive de sa propre tradition et de passer dans la culture universelle. Et qu'ils se soient occupés de faire un traité du rire, c'est pas par hasard. De notre temps, nous avons Victor Malka qui a fait un traité de l'humour juif, c'est plus sérieux. Revenons au problème. J'indiquerai cela peut-être, c'est qu'il y a une sorte de diagnostic que l'adoption d'Ishmaël par Sarah était un échec. Sarah, jusqu'à ce moment-là, bien que ce n'était pas son fils, a vraiment adopté Ishmaël, l'a élevé sur ses genoux, comme dit le vocabulaire biblique, de telle sorte d'en faire le fils d'Abraham. Entre-temps, Yitzhak était né. Et voilà qu'apparaît une rivalité entre Ishmaël et Yitzhak, indiqué en particulier dans cette moquerie d'Ishmaël vis-à-vis de Yitzhak, dont on va voir le contenu tout de suite dans le texte du Midrash, mais bien surtout ce diagnostic de Sarah, c'est que quelle qu'a été l'espérance que le fils de Hagar l'Égyptienne, comme dit le texte, bien que non hébreu, puisse comme tel porter l'avenir de l'identité d'Abraham, cette espérance est déçue. Il faut décidément que le fils d'Abraham soit hébreu pour que le message d'Abraham, l'hébreu, continue à se développer. Grosso modo, je crois que c'est l'essentiel de ce qu'elle en fait cette avancée de Sarah. Une fois l'identité hébraïque émergée, engendrée au niveau d'Israël, n'importe quel individu de n'importe quelle nation peut y être intégré. C'est ce qui est dit dans la promesse à Abraham, et tu seras bénédiction pour toutes les nations du monde. Mais tant que cette identité hébraïque est en gestation d'identité pour aborder à Jacob Israël, alors le critère de la séparation des matrices d'engendrement est radical. Je voulais apporter ce complément, c'est pas un correctif, ce sera bien clair à ce niveau. Alors nous allons maintenant, à travers le Midrash que vous avez le commencement ici, et ça continue. Là. Et vous avez dans la deuxième page une autre recension du Midrash. Je ne sais pas si vous reste des feuilles. Alors, Tania, on enseigne. Rabbi Shimon ben Yochai, Omer. C'est l'enseignement de Rabbi Shimon ben Yochai qui va citer trois de ses lettres. Voilà, vous êtes là. Page 194. Okay. Montrez-moi. Ici, au milieu de la page, Metzachet.
Je vais la réprimer ou comment tu vas voir. Vous avez bien dit ici, Metzachet.
Alors, bien. Bon. Je vais donc lire ce texte, un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui va citer trois de ses maîtres. Il va d'abord citer leur opinion et ensuite la discuter. Alors ici d'abord, si je me souviens bien, Rabbi Akiva. Oui, Rabbi Akiva qui dit « Ce rire, en tzrok ha'amur kan, le rire dont il est parlé ici par rapport à Ishmael, et là, Avod Azara. Ça ne peut être que le rire de l'idolâtrie. Alors vous avez un premier niveau. Voilà, voilà ce que Sarah a diagnostiqué dans le rire d'Ishmaël, l'idolâtrie. Et on cite un verset qui est dans la paracha de Kittissa, au moment de la faute du Vaudor. Vayakumu les Sarek, ils se levèrent pour rire, et c'était les rites d'idolâtrie du Vaudor. Alors, première notion à expliquer, en quoi le rire peut porter le comportement d'idolâtrie. Rabbi Eliezer dit, Zegilur Arayot. Selon Rabbi Eliezer, il s'agit de la débauche, et on cite un verset de la paracha de Vayeshev, Bar Elai a Eveda Ivri le Sachekbi. Quand la femme de Putiphar accuse Joseph, et qu'elle dit à son mari, l'esclave hébreu est venu rire avec moi. Et il s'agissait de la débauche. Rabbi Yoshua Omer, alors que Rabbi Yoshua dit, Zeshfichut Damin, c'est le meurtre. Et on cite un verset, Yakumuna ne'arim ve'isahak, ve'harbo ve'tzadre. Les jeunes gens se sont levés, chacun son épée, frappant son prochain, et il voulait, et ça veut dire le meurtre. Bon. Voilà les trois enseignements que Rabbi Shimon Bar Yochai ici. Vous vous rappelez de quoi on est parti. Sarah,
le premier,
c'est dans Shmuel Bet. Le deuxième livre de Shmuel. Vous voyez de quoi on est parti. Sarah qui voit un enfant rire. Et qu'est-ce que disent les rabbins? Ils disent l'un l'a vu, l'idolâtrie, le meurtre, la débauche. Mais on s'est envolé, on ne sait pas où. Hein? Alors de quoi il s'agit? Lentement, on va essayer de comprendre. Première analyse, et nous retrouvons là une structure de la Torah à laquelle vous êtes déjà familier. Le comportement de l'homme, évalué du point de vue de la moralité, est évalué toujours suivant trois axes. Dans les rapports avec Dieu, la faute principale, c'est l'idolâtrie. Dans les rapports avec autrui, la faute principale, c'est le meurtre. Dans les rapports avec soi-même, la dignité de l'homme en soi, la faute principale, c'est la débauche. Vous vous rappelez de cette analyse. Et par conséquent, ce qui veut nous être dit ici, c'est que dans ce rire, il y avait le rachat par excellence, dans les trois dimensions possibles. Si ce rire est ce qu'il est, voilà où ça mène. C'est facile à comprendre maintenant. C'est-à-dire, celui qui est capable de se satisfaire de l'état du monde, dans le maintenant, et non seulement de s'en satisfaire, mais de s'en satisfaire au nom de la piété, au nom du Créateur, alors on peut craindre de lui toute faute. C'est clair? Je ne sais pas si je suis arrivé à... Oui, ce que j'explique là, ça, bien entendu, ça scandaliserait un musulman et je serais scandalisé avec lui. Parce qu'à l'échelle individuelle, il y a exigence de la moralité dans n'importe quelle tradition religieuse. Mais il y a une attitude face au problème de la moralité qui est différente d'essence au niveau de la typologie de la civilisation considérée. Vous voyez par exemple ce qui a pu se passer dans toutes ces traditions religieuses dérivées du message d'Abraham et qu'au nom de la foi, on a massacré, on a violé, on a torturé. On... Bon, ça va un peu dans le fond. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'empêchement. Parce qu'il manque une certaine dimension de reconnaissance de Dieu comme Dieu de la moralité à venir. Et que c'est ce Dieu de la moralité à venir que l'on reconnaît déjà maintenant comme souverain. Alors ce n'est pas du tout le cas dans le rire d'Ishmael. Cette dimension-là n'existe pas. Et vous voyez comment ce serait très imprudent d'imputer à autre sa propre compréhension de l'homme. Chaque fois qu'on parle l'autre comme tel, le prochain, Oui, mais ça dépend si l'autre est vraiment le même. S'il n'est pas le même, c'est pas l'autre. C'est un autre. Est-ce que c'est clair? Il y a d'autre part un commandement d'aimer toutes les créatures, mais chacune dans sa carte d'identité. C'est un autre commandement. C'est clair. Quand je veux dire ceci, mon expérience, en tout cas personnelle, me montre que le dialogue de théologie à théologie est pratiquement impossible si on n'a pas d'abord passé 40 ans à étudier ensemble, chacun dans le langage de l'autre, parce qu'on ne parle pas des mêmes choses. Vous comprenez? Ici, le Midrash nous a laissé un mot, Metzachek Yitzhak. Et celui qui n'expérimente pas la différence radicale ne comprend pas ce que Sarah était en train de faire là. Et vient Rabbi Akiva, vient Rabbi Yoshua, vient Rabbi Eliezer, il dit des grandes choses. Le meurtre, l'idolâtrie, la débrouille. D'où ça sort d'un petit gamin comme ça qui est en train de rire. Et vous voyez, je reviens à votre traduction, comment les rabbins des rabbins de la Bible du rabbinat sont responsables d'une espèce d'abêtissement de la conscience juive. Qu'est-ce qu'on va lire dans ce verset en français? Vous voyez à peu près. Alors, dans l'ordre, je ne sais pas qui. Et on n'a pas fini le Midrash. Rabbi Shimon Ben Yochai va intervenir tout à l'heure.
Est-ce qu'on peut pas dire que dans le livre d'Israël, il y a entendu une espèce de rupture avec la qualité et avec l'autre? Un rire qui est totalement individuel et très singulier, et qui est un refus même de la présence de l'autre. Et qui est finalement une sorte de, non pas d'en faire un objet, mais en tout cas de,
oui,
de qu'il soit absent. Et qui ne soit pas un partage, ce n'est pas un rire partage.
C'est exactement ce qui va arriver dans ce que va dire Rabbi Shimon Ben Yochai. Le Midrash, par rapport auquel que j'impute à la traduction que vous avez citée, un rire de moquerie et de mépris vis-à-vis de ça. C'est un rire qui transforme en objet. Et vous voyez à quel point je ne sais pas. J'ai un souvenir dans ma mémoire. J'étais peut-être jeune. À l'époque, c'est quand Nasser a nationalisé le canal de Suez dans les années 50. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je me souviens d'avoir entendu à la radio le rire de Nasser quand il a annoncé ça, et je me suis rappelé de ce verset. Il avait cette manière de rire. Et on pourrait retrouver l'enregistrement dans les archives. Maintenant, je pense qu'il y a du balagan à la radio, mais enfin...
Hein?
Il y avait cette photo. Un peu, ça m'a rappelé le rire d'Ishmael. Quel?
Oui, quand Dieu fait la promesse à Abraham et à Sarah, qui devront en être, on dit que les deux, Abraham et Sarah, étaient au présent et n'étaient pas au futur.
Quel? Et c'est pourquoi il y a toute une contestation. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rire, hein? Et nous allons voir qu'ils font bien de rire à ce moment-là. Je veux dire quelle est la règle. Et je vous donne un exemple tout à l'heure. Rappelez-moi Isaac et Rebecca. Quel? À un certain moment, Yitzhak, qui est tout entier le rire au futur, on le voit rire au présent. Et là, le Midrash intervient. Qu'est-ce qui se passe? Yitzhak a ri. Et bien, la règle est très simple. Chaque fois que dans ce monde-ci, on vit un moment de monde à venir, le rire est permis. Un moment. Est-ce que c'est
clair? Pour un instant. Hein? Pour un instant.
C'est ce qu'on appelle, s'il y a authenticité, c'est ce qu'on appelle la joie. Et c'est pourquoi vous verrez que Tzrok est écrit tantôt Tzadé, tantôt Sini. Dans le vocabulaire lui. Et quand il y a Yitzhak avec Sin, c'est pas exactement la même chose que Yitzhak avec Sadé. Bon, c'est un autre problème. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un moment de préfiguration messianique, quel que soit le siècle où on a vécu dans ce monde si épouvantable, alors il y a un moment de rire permis qui s'appelle la joie. Or, Zaroua, la Tzadik, l'Ishtelev, Simcha. Bon, l'étude de la joie, il faudra faire un séminaire aussi. Pourquoi? À quelles conditions la joie est permise à un juif? Par rapport à quel? On a le droit d'être joyeux, tant que le monde se trouve. Ça fait partie du monde. Donc à quelles conditions la joie est permise? Ça vous ferait comprendre l'énorme déferlement de la chassidoute. Il y avait une frustration de joie telle qu'ils voulaient être joyeux, alors ils sont devenus chassidoutes. Alors, j'aimerais bien revenir sur cette Gemara, mais enfin, je vous pressens, vous avez beaucoup de questions sur le sujet, je vous ai un peu avancé. Et, oui.
Quand vous parlez d'identité de manière verte, vous dites Isaac, Yitzhak et Ismaël. Et d'autre part, je comprends bien, mais attendez, c'est une fois pour toutes. Il y a l'identité de Yitzhak qui est telle et telle par cœur. C'est-à-dire qu'il y a l'identité d'Ismaël qui est telle et telle pour réaliser votre maladie. Et d'autre part, vous parlez de réconciliation future,
Alors, pour qu'il y ait réconciliation, il faut des changements de part et d'autre.
Absolument. Oui, donc il n'y a pas. Non, et donc, c'est ce qu'il n'y a donc pas de contradiction. Je ménage un peu le vocabulaire. C'est un. J'ai parlé de typologie. C'est un projet d'identité, une attitude. À l'échelle individuelle, cette attitude peut être corrigée. Et je veux dire qu'Ishmaël peut devenir sadique. C'est ce que nous dit avec beaucoup d'étonnement le texte, à la fin de l'histoire d'Abraham. De la même manière qu'un fils d'Israël peut devenir rachat, et c'est ça Ésaü. Vous comprenez qu'à l'échelle individuelle, il peut y avoir capotage ou rédemption. C'est évident. C'est pourquoi j'ai dit attention de ne pas généraliser. C'est une attitude d'identité, un projet d'identité, un point de vue sur la vie, mais c'est pas un point de vue, c'est pas intellectuel, c'est un point de vue sur la vie.
Un point de vie.
Exactement.
Donc dans le point de vie, il y a des individus.
Et les individus.
C'est l'ensemble des individus qui forment l'identité.
D'accord, mais donc, à l'échelle individuelle. C'est pourquoi il ne faut pas généraliser. C'est pourquoi je vous parle d'une attitude. Malheureusement, l'histoire des civilisations nous montre qu'en gros plan, c'est comme ça que ça se passe. Les individus pouvant être racisés ou montarolam. Vous entendez l'hébreu ? Les juifs de nation. Je connais personnellement des musulmans qui sont des tzadikim, mais ils sont dans l'islam, et l'islam c'est rachat. Je connais personnellement des chrétiens qui sont des tzadikim, mais ils sont dans la chrétienté, et la chrétienté c'est rachat. Parce que Ishmael c'est Ishmael, et Esa c'est Esa. Ça je vous comprends. Je connais énormément de Français qui sont des humanistes transfigurés. La France, Dieu préserve. Vous voyez, c'est un problème. Alors, vous êtes encore une autre
question. Oui, je voulais dire que rachat, c'est comment vous appelez ça ?
Sadique. Exactement. Et le critère, et moi je voudrais employer des critères simples, c'est la morale. Et avec tout notre problème, je ne sais pas si c'est le premier coup que vous êtes, tout notre problème de la différence de la moralité, ce n'est pas la légalité de ce que l'on prend pour la morale. C'est bien le problème. Et là, à la fois si vous avez un problème de sensibilité, mais on ne peut pas étudier au niveau de la sensibilité, un problème d'histoire. Il n'y a qu'à lire l'histoire de ce qui est sorti d'Ishmaël, de ce qui est sorti de Esaü, de ce qui est sorti d'Israël, et comment ça s'est passé dans le monde. Et ceci dit, à l'échelle individuelle, toutes les rédemptions sont possibles, tous les capotages sont possibles, c'est sûr. Voilà, sinon, pourquoi ? Il faut se méfier de la typologie, qui est la méthode que l'on voit d'ailleurs, c'est pourquoi tu moi-même. Alors, je pense que c'est clair, parce que la pensée généralisante est toujours une pensée totalitaire. Bon, mais je vous fais confiance pour savoir ce qu'il y a derrière les mots. Bien, il n'y a pas d'autres questions, j'avance.
Moi j'en ai une, enfin. Yitzhak, Yaakov, Ishmael, ces trois prénoms commencent par un Yud, et ce Yud indique en général un futur. Et Esav, rien du tout. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces trois?
Il faudra que je réfléchisse à ça, c'est nouveau pour moi comme question, mais Abraham aussi, il n'y a pas.
Oui, c'est ça.
Bien, alors revenons donc à notre problème. À ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai intervient, après la citation de ses trois maîtres, intervient pour les contredire. Et là, nous avons un étonnement colossal. Remarquez que de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut s'attendre à tout. Mais ce n'est pas du tout une règle traditionnelle de s'opposer à l'enseignement de ses propres maîtres. Si déjà on a trois maîtres, comme Rabbi Yochai, Rabbi Lézur, Rabbi Akiva. Et il dit ceci. Chas v'shalom, sheyye kach v'beto shelotot tzadik. Vous comprenez que ça veut dire Chas v'shalom?
Que Dieu préserve.
Intraduisible.
Non.
Hein? Que Dieu nous en préserve.
Oui,
c'est traduit, mais.
Chas v'shalom. Intraduisible. Mais enfin, l'idée, c'est ça. C'est pas possible qu'il y ait un enfant pareil dans la maison de ce juste. Quel juste? Abraham. Bon, de qui tu parles? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Du fils d'Abraham. Ça va pas? Vous voyez, le fils. Et là, alors, dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, après on va revenir à ses maîtres. Mais, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, en schok ze, et la Yerusha, ce rire porté sur l'héritage. Et c'est là que s'insère le Midrash de votre traduction, d'un rire de moquerie, et de mépris d'Ishmaël vis-à-vis de Yitzhak. Tu crois que tu es l'héritier de la terre d'Abraham, c'est moi, Ishmaël, qui suis le vrai premier-né et qui suis l'héritier de la vie. Et voyez à quel point ça embraye dans le corps réel. Et alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, c'est pas du tout ça. Ce rire, c'est quand Yitzhak réclamera l'héritage d'Abraham et qu'Ishmaël commencera à rire de commisération, de pitié. Qu'est-ce que c'est que ce juif qui réclame Jérusalem? C'est dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors on va revenir à la même. Je vous lis d'abord dans le texte. Nous avons dit quand même. ואני אומר, דיר רבי שמעון בר יוחאי, חס ושלום שיהיה בביתו של אותו צדיק מי שעושה כן, Dieu préserve de dire que dans la maison de ce juste, Abraham, il y ait quelqu'un, Ishmael, un fils, qui fasse ça, l'idolâtrie, la débauche. Le... Et là, El Spok, Zéla Yerusha, ce rire ne porte que sur la contestation de l'héritage. Chez Haya, car Ishmael, Haya Metzachek, dans la Siba, riait, Véomer, et disait, Ani Becho, c'est moi l'aîné, Venotel Shne Halakim, et j'aurai les deux parties de la vie. Et Rabbi Shimon Bar Yochai ajoute les deux parts de l'héritage. Et Rabbi Shimon Bar Yochai ajoute les royaux niets des varaïs, nous disait Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Et Rabbi Shimon Bar Yochai ajoute et je préfère mon explication que celle de mes mères. Bon, alors on revient en arrière. L'intervention de Rabbi Shimon Bar Yochai est très importante. Il veut nous dire de façon très claire quand Ishmael est dans la maison de son père, il n'est pas comme ça. Il rit. Alors son rire a un autre sens. Mais quand il rit, quand il est dans la maison de son père, Bébéto chez l'auteur sadique, il n'est pas le débauché, l'assassin et l'idolâtre. C'est Ishmael avec l'islam ou sans l'islam. Lorsque Ishmael est dans la maison de son père, c'est-à-dire le musulman reconnaissant l'enseignement de son père Abraham, alors l'islam interdit et la débauche et le meurtre et l'idolâtre. C'est clair. Il y a donc deux Ishmael, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et il faut savoir duquel des deux on parle. Si l'on parle d'Ishmael en dehors de la maison de son père, alors oui, il y a eu tout cela, et il y a tout cela, et il y aura tout. Mais si c'est Ishmael dans la maison de son père, le musulman authentique, reconnaissant le Dieu d'Abraham vraiment, et si vous connaissez la loi musulmane religieuse, vous savez que l'idolâtrie est absolument interdite, la débauche absolument interdite, et le meurtre absolument interdit à la manière des lois de l'islam. Mais il y a reconnaissance de cette grande perspective de la moralité, malgré tout. Il y a quand même ce rire contre Yitzhak. Alors ce rire porte sur quoi? C'est un rire au niveau de l'histoire politique, de la contestation à qui appartient la terre d'Abraham. Très bon. Moi j'ajouterais, après, si j'ose, dire que, et finalement, bien que Ishmael soit dans la maison de son père, le rire, c'est quatre choses, pas seulement une des trois ou une des quatre. Et de nouveau, il faut faire une distinction entre l'échelle individuelle et l'échelle... sans imputer à l'islam authentique ce que font les musulmans inauthentiques. Puisque, effectivement, la réalité concrète montre que dans n'importe quelle tradition, l'individu peut ne pas être ce qu'est son identité de référence. Comme je disais souvent, tous les SS ont été baptisés. Or, l'intention du baptême chrétien, c'est pas de faire des SS. Mais tous les SS ont été baptisés. Vous voyez, c'est très bon. Et alors, pour revenir à notre question, nous voyons donc qu'il y a à préciser une définition du rire en général, s'il est au présent et s'il est au futur, et qu'est-ce que ce rire véhicule, en particulier, dans la contestation d'identité entre Ishmael et Yitzhak. Voilà le premier point que je voulais analyser. Et j'espère avoir indiqué suffisamment qu'il y a une espèce de conditionnement de l'engendrement de l'enfant qui vient, quelle que soit l'identité du père, et ici il s'agit d'Abraham, qui vient de l'identité de la mère. Voilà pourquoi Yitzhak est fils de Sarah, alors que Ishmael est fils de Agar. Jusque-là, pour la première analyse, vous avez la parole si vous avez des questions, puis j'apporte la deuxième minute.
Oui, là, je comprends très bien, mais c'est particulier, c'est tout le monde particulier de Sarah et Abraham. Pourquoi est-ce que c'est valable pour toute la suite? Parce que ce sont les ancêtres, les grands-pères d'Israël.
Non, écoutez, si je comprends bien votre question, il faut inverser ce que vous avez dit. C'est aussi ce cas particulier parce que c'est la règle générale. C'est pas... Pourquoi ça joue ici? C'est parce que c'est la règle générale que l'identité du fils de l'homme vient de l'indice de qui a été sa mère. Je dirais d'une autre manière, l'importance de l'identité hébraïque dans ce récit, elle est premièrement équivalente chez Abraham, Zachar, et chez Sarah, Nekeva. Mais un indice important, plus grand, chez Sarah que chez Abraham, chez la mère que chez le père. Et c'est cette règle que la halakha va retenir. Et je peux me permettre une question indiscrète. Vous n'êtes pas d'origine juive.
J'ai une origine juive.
Ah, vous êtes que d'origine juive.
Non, je suis mélangée.
Et donc, je comprends bien votre question. Mais chaque cas particulier doit s'étudier pour lui-même. Ne mélangez pas vos préoccupations personnelles et la règle générale.
Oui, mais justement, je n'arrive pas à comprendre, même que ce soit... Parce que, par exemple, il y a des tzadikim qui peuvent avoir une mère indigne.
Ah, il ne s'agit pas d'indigne. C'est une matrice d'identité, je ne sais pas comment dire. Enfin, je reprends un peu une analyse de tout à l'heure.
Parce que... Même d'un point de vue simplement de la réalité, parce que le judaïsme aussi regarde, ce ne sont pas simplement des symboles, il s'appuie sur les bases de la réalité, aussi de la réalité humaine. Scientifiquement, on hérite autant du père que de la mère. Et maintenant, par les mystères de l'hérédité, on peut hériter plus d'un ancêtre, que ce soit paternel ou maternel.
Ça dépend de quoi on hérite. C'est-à-dire, ce que vous dites confirme plus le principe que j'explique que le vôtre. Ce sont des réalités, effectivement, et pas simplement des symboles. Alors, je reviens sur un point de l'analyse. Et je vous ai dit trop rapidement. Nous lisons des textes, des récits, qui prennent notre problème d'identité à la racine, alors que l'identité d'Israël est en gestation. Tant que l'identité d'Israël est en gestation, il y a interdiction absolue, à ce niveau du récit, que le fils du patriarche soit le fils d'une femme étrangère à l'identité d'origine qui est celle d'Abraham et Sarah. Vous vous rappelez, quand Isaac est né, il fallait marier Isaac ou trouver une femme pour Isaac. La consigne donnée à Eliezer, surtout que Isaac ne revienne pas d'où Abraham est sorti parce qu'il en est sorti, mais il n'y a que d'où Abraham est sorti que pourrait sortir aussi par miracle, et ce miracle a existé, une femme pour Israël. Vous vous rappelez de ça? Surtout ne pas prendre de femme dans le pays de Canaan qu'on doit remplacer. Parce que si on commence par se mélanger au niveau de la gestation d'identité, il n'y aura plus ni Canaan ni Israël. Israël est encore en gestation d'identité. À partir du moment où Israël existe comme tel, alors quelle que soit l'origine de la nation considérée, éventuelle, à l'échelle individuelle, on peut acquérir l'identité d'Israël. Mais tant que c'est en gestation d'identité, alors le critère de qui est la mère est le critère principal, et je reviendrai là-dessus. Voilà pourquoi, au temps des avots et au temps des pères, la règle est absolue. Et c'est cette règle qui va être la règle de la halakha au temps des fils. Mais vous pourriez avoir une femme comme Ruth qui vient de Moab, qui entre en Israël. Elle a une place privilégiée, elle sera l'ancêtre du roi David. Mais tant que nous sommes à ce stade des avots, Abraham, Yitzhak et Yaakov, voilà le premier exemple. Agar n'est pas n'importe qui, va nous dire le Midrash. C'est une matrice féconde, mais qui est au niveau de l'identité de la société égyptienne. Alors il en résulte Ishmaël. Et Ishmaël n'est pas d'Israël. Un descendant d'Ishmaël, à l'échelle individuelle, peut entrer en Israël. Et nous verrons que c'est même pas nécessaire. Pour le cas d'Ishmaël en particulier, c'est le deuxième point que je voulais étudier assez rapidement, s'il nous reste assez de temps, Oui, il nous reste une demi-heure. Et sinon, on demandera de même. L'histoire nous montre que il y a eu très peu de descendants d'Ishmaël qui ont jugé utile ou nécessaire de se convertir au judaïsme. Et dans le temps contemporain, c'est encore la même chose. Et pas seulement pour des obstacles de type politique contemporain. Par exemple, il y a quand même un nombre déjà assez notable de musulmans, qui ne sont pas tous des Palestiniens d'ailleurs, des prisons israéliennes, c'est-à-dire des terroristes, qui demandent la conversion au judaïsme après X temps. On a des dossiers très compliqués parce qu'on ne sait pas très bien si c'est des histoires d'espionnage ou vraiment des conversions sincères. Il y a à peu près tout. Mais il y a quelques cas. Mais dans tous les cas, dans l'histoire très longue des rapports entre Ishmaël et Israël, on ne voit pas qu'il soit nécessaire qu'un musulman se convertisse au judaïsme. Et historiquement, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'un musulman peut, en tant que musulman, être sadique authentique. C'est ce qui n'est pas le cas de Haïssa. Il y a énormément de chrétiens qui demandent la conversion au judaïsme, pour des raisons, c'est pas le sujet maintenant, mais enfin, en proportion statistique, c'est énorme par rapport au cas des musulmans. Quoi donc, une fois l'identité Israël existante, n'importe qui peut s'y intégrer, à des conditions de légalisation. C'est un mot que j'aime pas, mais enfin, d'authenticité. Okay. Mais au temps de la gestation d'identité, on voit très bien, et cet exemple n'est pas un cas particulier, mais c'est celui qui illustre la règle générale, que la différence vient de l'identité de la mère. Vous avez employé le mot de mystère. J'entends bien que dans l'état actuel des sciences, comment vous appelez ça, de génétique, ça a l'air d'être mystérieux. Mais admettons, ne serait-ce que par postulat, que la tradition hébraïque a ses propres critères. Et que l'histoire est le devoir. Vous savez, comment est l'état d'une science naissante dans la civilisation contemporaine, comme par exemple la génétique. C'est une science au stade des hypothèses, de balbutiements, de tentatives d'explication, et on change de mode tous les 3 mois, vous savez cela. Alors, admettons que par postulat, cette sagesse hébraïque a ses propres critères. Par où passe l'hérédité morale? Par la mère ou par le père? Même si nous avons des cas dans l'existence où il semble que c'est par la père. Par le père plutôt que par la mère.
Ça, c'est trop bien.
C'est ce que dirait Freud.
Je ne suis pas tellement convaincue de même parce que je comprends fort bien le pas en fin de l'histoire de Abraham et de Sarah.
Ça suffit.
Est-ce que pour vous, en fait, Israël est en gestation, enfin, du point de vue des temps des siècles, bien sûr, il est encore en gestation, mais Israël, il existe depuis longtemps.
Oui.
Maintenant, l'identité Israël, on la connaît, même si on n'arrive pas à la réaliser, mais on la connaît.
Bon, alors je crois qu'on va avancer un petit peu rapidement.
Je ne comprends pas comment on peut rester toujours du point de vue généalogique à cette question. Et alors pourquoi
la
généalogie biblique
serait fertile au père. Écoutez, je crois qu'on va faire du surplace. Alors peut-être qu'il vaut mieux changer de sujet, mais je vous permettrai peut-être quelques phrases. C'est l'identité du père qui est modifiée de génération en génération, de telle sorte d'arriver de l'identité homme à l'identité fils de l'homme. L'indice de modification vient de l'identité féminine de la mère. Peut-être nous ne sommes pas encore outillés dans le langage contemporain à aborder ces problèmes-là de façon claire, parce que je ne vois pas très bien à quel système me recoder dans la civilisation occidentale. Et laissons un peu le freudisme de côté, quoique il y a différents freudismes, pas tous authentiques, qui se baladent dans l'atmosphère. Mais ne confondez pas un problème personnel avec le problème général. C'est uniquement de ce point que je voudrais encore dire quelques phrases. Et une femme non-juive peut devenir juive. Et à ce moment-là, son fils a une mère juive. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Mais tant qu'elle n'est pas encore juive, son fils n'est pas juif.
Oui,
c'est ça qu'il faut comprendre.
Ça n'est quand même pas la même chose, quand même de naissance, enfin charnellement. Enfin, on peut avoir un atavisme quand même qui existe.
Je vous garantis que du point de vue de la halakha, c'est la même chose et voilà pourquoi.
Oui, bien sûr.
À partir du moment où la communauté d'Israël existe, c'est à l'intérieur de cette identité collective que se trouve l'individu. Qu'est-ce qui fait en fin de compte que l'individu est plus ou moins juif? C'est sa collectivité. Or, la collectivité d'Israël, elle est déjà d'origine de mère juive. Et c'est à l'intérieur de cette identité collective, du clan Israël, qu'un individu, mâle ou femelle, venant de l'extérieur, devient Israël. Et puis, le jugement d'identité se fait à la fin des temps, comme nous avons vu à l'origine. N'ayez pas de panique. Je vais vous citer un chapitre d'Isaïe, vous allez lire attentivement. C'est dans les chapitres 60. Lorsque vous avez un Tanakh ici, lorsque Isaïe parle de votre problème en disant « N'ayez pas peur, vous aurez une place plus que les fils et les filles. » Charnel. Attendez que je trouve ça. Dirchou Hachem Beïmato, chapitre 60. Pardon ? C'est 53 ? C'est la Haftara des jours de jeûne. Alors, on va vous trouver tout de suite et vous lui dites à partir. D'ailleurs, je vais vous...